Donc, de toute façon, vous aurez un souvenir de Gaël. Voilà.
Ben, merci Françoise. Alors j'ai conscience d'avoir choisi un titre provocateur, donc peut-être que certains ont eu la crainte que je puisse évoquer l'idée un peu iconoclaste qu'on cesse de subventionner la culture. Mais néanmoins, je pense que c'est pas inutile de se poser la question de savoir pourquoi on continuerait, puisque notre pays peut s'enorgueillir effectivement d'un large soutien à la culture. Pourquoi on continuerait à le faire? Effectivement, certains pourraient se dire, avec l'essor des grandes entreprises culturelles ou qui offrent l'accès à des biens culturels, avec l'essor de l'Internet, avec la capacité de tous les habitants quasiment de notre pays, où qu'ils se trouvent, d'avoir accès à des formes de culture, à quoi bon, finalement, d'une certaine manière, continuer à subventionner les institutions ou les équipements culturels. Alors, c'est pas un débat totalement non plus abstrait parce que, ou en tous les cas déconnecté, parce que il me semble que peut-être certains élus pourraient se dire, après tout, est-ce qu'on a toujours besoin, par exemple, de bibliothèques? Est-ce que, à travers cet accès quasi infini qu'on a à travers les grandes plateformes, est-ce que c'est toujours aussi nécessaire qu'autrefois? Voilà. Donc c'est une question intéressante parce que l'idée sous-jacente, c'est que les grandes industries culturelles dont je parlais, qui sont très puissantes, hein, bien entendu, peut-être n'apportent pas aux citoyens ce que la politique culturelle ambitionne de leur apporter. Autrement dit, est-ce que la culture, c'est simplement avoir accès à des biens tels que la musique ou le cinéma, ou bien c'est tracer une espèce de parcours, de chemin, de voyage qui conduit chacun d'entre nous d'un point de départ, quel qu'il soit, vers quelque chose d'un peu plus, alors c'est difficile de trouver le terme, un peu plus élevé, un peu plus exigeant, un peu moins évident. Et ça, c'est peut-être ce qui donne sa noblesse à l'intervention publique dans le domaine de la culture. Par exemple, si j'en reviens à l'exemple des bibliothèques, certes, Amazon, pour pas le nommer, va vous faire des recommandations fondées sur des algorithmes. Mais, selon la plupart des auteurs, ces recommandations vont plutôt vous conservez dans la zone dans laquelle vous évoluez plutôt que d'aller vers des champs à défricher. Et à ce titre-là, donc je reste sur mon exemple des bibliothèques.
Amazon, juste, c'est quand vous voulez acheter un livre, tout d'un coup, Amazon vous conseille d'autres livres. Voilà. Ouais, donc, vous avez tous fait cette expérience-là, j'imagine, avec le... Ah, vous avez. Ouais,
bon, voilà, bah, c'est bien. Ouais,
c'est bien. Voilà, en fait, si vous voulez, voilà, vous cherchez quelque chose et tout de suite, on va vous conseiller... le même, toujours le même. Et oui, voilà, il y a Martine qui fait comme ça, dans cette voie-là.
Alors, à l'inverse, si vous allez dans une bibliothèque, le bibliothécaire ou la bibliothécaire va pouvoir vous conseiller, vous orienter, vous aider à cheminer vers des choses inattendues. Et puis il y a un autre effet des bibliothèques, hein, qui est l'espèce d'effet de sérendipité, qui fait que, bah, vous allez chercher un bouquin, et puis en fait, il n'est pas là. Bon, donc vous êtes un peu déçu, a priori, mais vous continuez à cheminer, et puis votre œil est attiré vers un autre livre auquel vous n'aviez pas songé. Donc cet effet-là, il est très important, et c'est celui que peuvent apporter les bibliothèques, et aussi, je ne les oublie pas, bien sûr, les librairies. Donc dans l'actualité, on a un exemple de ce débat, qui n'est pas forcément évident, autour du pass culture. Donc le pass culture, je ne sais pas si vous savez, c'est réservé aux jeunes. On leur donne une sorte de crédit, enfin d'accès monétaire pour pouvoir acheter des biens de culture. Et certains des critiques ont dit, oui, mais en fait, ils achètent surtout des mangas. Alors, pour moi, ce n'est pas très grave, ce n'est pas tant le problème que ça. Le problème étant que, il me semble que cette action publique orientée vers le pass culture destiné aux jeunes me semble partir en effet a priori d'une sorte de bonne idée ou de fausse bonne idée, mais qui risque de ne pas aboutir au résultat auquel on aspire en termes de politique publique, c'est-à-dire l'accès de ces jeunes, à des formes de culture auxquelles ils n'auraient pas songé a priori. Et donc là, j'en veux pour preuve deux témoignages récents, deux rapports, l'un de la Cour des comptes et l'autre d'un rapport du Sénat qui s'interroge en effet sur l'efficacité de ce dispositif du pass culture. Alors donc, vous allez me dire, mais alors pourquoi les pouvoirs publics ont-ils choisi cette voie? Alors en dehors du fait que, bon, agir en direction des jeunes, c'est toujours bien, a priori, il me semble qu'il y a peut-être derrière une autre explication qui tient à une sorte de double illusion. L'illusion de la technique et l'illusion du numérique. Alors, l'illusion de la technique, c'est de penser, d'imaginer que l'outil technique, c'est-à-dire en l'occurrence, ça prend la forme d'une application auquel les jeunes ont accès, l'outil va, d'une certaine manière, se substituer à la politique. Autrement dit, à la stratégie, aux objectifs qu'on poursuit à travers le but qu'on s'est fixé et pour lequel l'outil n'est qu'un moyen d'accéder à la finalité que l'on recherche. Et là, dans ce cas précis, il me semble qu'on attend trop de l'outil parce que l'outil, malheureusement, ne fera pas la politique. Et la politique, je précise pour ceux qui s'interrogent là-dessus, c'est de... Je disais tout à l'heure, de faire en sorte que les jeunes gens s'intéressent à des formes de culture auxquelles ils sont moins habitués. Et alors la deuxième illusion, je pense, est celle de l'illusion du tout numérique. C'est-à-dire l'idée que le numérique, du fait de sa facilité d'utilisation et de sa large diffusion, va permettre de combler des difficultés d'accès auxquelles certains milieux sont confrontés. En réalité, malheureusement, et on a un peu de recul pour maintenant pour le savoir, et c'est ce dont témoignent les études du ministère de la Culture lui-même, le numérique ne permet pas de surmonter les difficultés d'accès de certains de nos compatriotes à justement ces formes de culture qui sont un peu plus recherchées. Alors, à ce que je viens de dire, s'ajoute un ensemble de crises que nous venons de traverser, donc la crise de la Covid, les crises sociales, diplomatiques ou autres, qui font que probablement une partie des élus s'interroge sur la meilleure affectation possible des ressources publiques. Et dans ce cadre-là, on peut soupçonner que la culture n'est pas considérée comme le dossier prioritaire eu égard à d'autres besoins de la société, dans le domaine de la santé, du social, de l'éducation, des quartiers. On a vu les émeutes récemment, etc., etc. Et donc, pourquoi je pose cette question? Parce qu'on peut s'interroger sur le devenir de formes de culture dont il n'est pas exclu d'imaginer que les citoyens pourraient se détacher progressivement. Alors, pas totalement, et je vais m'expliquer sur ce point. Je pense là en particulier à deux formes de culture considérées comme appartenant à la culture, on va dire, un peu cultivée, si c'était, malgré le terme de culture cultivée, ça paraît un peu étrange, mais c'est un peu un terme qui est utilisé dans la littérature. Et là, je pense à la musique symphonique et à l'opéra. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez me contredire, mais disons que les nouvelles générations ne témoignent pas d'un attachement très fort à l'égard des concerts de musique symphonique, en tout cas, ou à l'égard de la musique classique, si vous voulez préférer, de manière générale. Et donc, on pourrait s'interroger sur combien de temps, finalement, les collectivités pourrait ou serait désireuse de continuer à soutenir une forme d'art dont on pourrait dire par ailleurs que finalement elle intéresse plus tant que ça nos compatriotes. Et de la même façon pour l'opéra, qui est la forme culturelle la plus coûteuse qu'on puisse imaginer, pour des raisons objectives, bien entendu, est-ce que les collectivités, à un moment donné, vont se dire bah non, finalement, ça n'intéresse qu'une petite fraction des citoyens, et à ce titre-là, il vaut peut-être mieux qu'on affecte nos ressources à d'autres usages. Alors, sans vouloir entrer dans le champ de la politique, quand même, on peut constater que certaines municipalités, dans certains cas nouvellement arrivées aux affaires, se disent, est-ce qu'il vaut mieux pas privilégier une culture de la proximité, une culture de la pratique, plutôt que des formes un petit peu élitistes ou considérées comme élitistes, telles que, et j'en reviens à mon sujet, la musique classique ou l'opéra. Voilà, alors, donc ce débat que j'évoque, c'est celui de savoir si finalement le marché, les entreprises, les offreurs de production culturelle peuvent combler tous les besoins des citoyens, ou bien si la collectivité publique doit continuer à jouer un rôle à cet égard. Et vous aurez compris que de mon côté, je pense que la politique publique doit encore intervenir, notamment parce que nous sommes face à une certaine difficulté. Alors, avant d'arriver à la difficulté, quand même, les points positifs. Hein, la France est un grand pays de culture, et ce n'est pas tellement nous qui le disons. C'est en général, c'est reconnu par nos voisins ou par la réputation de la France, qui est très ancienne, bien entendu. C'est très anciennement que les dirigeants, on va dire, si on peut dire, hein, si on parle de François Ier ou Louis XIV, ont attaché leur nom aux arts et à la culture. Mais c'est évidemment encore le cas aujourd'hui. Alors, je sais pas, on s'en rend pas forcément compte, mais quand on va dans n'importe quel territoire français, on va trouver une bibliothèque, une école de musique, un conservatoire, souvent une salle de spectacle et de nombreux musées qui parsèment le territoire. Donc ça, c'est le point positif. Mais, déjà on arrive au mais, et qui peut-être ce qui donne son sens à l'action publique, c'est que nous avons une partie de nos concitoyens qui n'accède pas en réalité à cette diversité de l'offre. Par exemple, pour donner un simple exemple, dans le domaine des musées, 70% des Français ne visitent pas un musée dans l'année. Donc c'est quand même une petite difficulté. Et par ailleurs, on a dans les enquêtes qui portent sur les pratiques culturelles des Français, depuis qu'on les observe, c'est-à-dire à peu près depuis 50 ans, on a une disproportion marquée entre les catégories sociales, c'est-à-dire les catégories sociales les plus aisées, on va dire, ou les plus dotées en capital culturel, ont des pratiques culturelles qui sont beaucoup plus élevées que les catégories les moins favorisées de la population. Donc là, ça donne tout son sens à l'action publique, puisque ça leur relève de l'intérêt général que de faire en sorte que davantage de nos concitoyens bénéficient d'équipements publics, hein, les musées, les théâtres, les conservatoires, les maisons d'opéra, et qui sont financés, je le rappelle, par la totalité des citoyens. Et donc, les difficultés qu'on constate à cet égard doivent continuer à nous interpeller, à moins que l'on considère, mais là, ça pose un grave problème, me semble-t-il, de politique publique, de dire après tout, non, c'est pas grave, on passe à autre chose, et puis chacun a sa forme de culture, et pourquoi voulez-vous à tout prix que les gens fréquentent les théâtres ou les musées? Voilà. Et alors, peut-être pour terminer sur ce point, je mentionne un autre outil de la politique publique qui ne me semble pas très bien adapté, et je ne suis pas sûr de recueillir un large assentiment là-dessus, mais quand même, c'est la question des microfolies. Alors, peut-être certains d'entre vous ne voient pas de quoi je parle. Ce sont des équipements qui ont été imaginés, conçus par la Grande Halle de la Villette et qui sont assez largement proposés, notamment à travers le ministère de la Culture et puis les préfectures, dans les différents territoires, pour dire, à défaut d'avoir un théâtre ou une salle de spectacle ou je ne sais pas quoi, vos habitants vont avoir accès à la culture à travers des écrans. Et là, on se dit, est-ce que c'est réellement comme ça que les choses se passent ? Est-ce que je vais accéder au spectacle vivant à travers une production numérisée ? Et est-ce qu'au fond, l'ambition de la politique culturelle, c'est pas plutôt l'accompagnement des individus dans la recherche, dans la démarche, dans le voyage dont je parlais tout à l'heure. Voilà, tout ça pour dire que la politique culturelle, elle est un peu une sorte de tournant, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a, il y a des acquis, incontestablement, et il y a des difficultés contre lesquelles on continue, auxquelles on continue à se heurter. Et dans ces conditions, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on imagine de nouveaux dispositifs ? Et quand on imagine des nouveaux dispositifs tels que celles que j'ai mentionnées, les microfolies ou les passes culture, est-ce qu'on est certain que ces dispositifs sont bien adaptés ? Alors je termine quand même aussi sur un point sur le passe culture. J'espère que vous ne penserez pas que je fais une fixation. C'est tout simplement, comme l'ont rappelé à la fois la Cour des comptes et les sénateurs, c'est le deuxième budget du ministère de la Culture, mine de rien. Donc c'est quand même énormément d'argent, donc 200 millions d'euros par an, ce qui le place en seconde position derrière la Bibliothèque nationale de France. Donc en tant que citoyen, on est fondé à s'interroger, non pas pour mettre en cause quiconque, mais pour se dire, bon, est-ce qu'on est sûr que c'est dans ce sens qu'on veut aller ? Et est-ce qu'on est sûr que dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, quand on fera le bilan de cette opération, on se dira, bah oui, c'était le meilleur usage possible qu'on pouvait faire de l'argent public. Voilà, première observation, Françoise. Alors, si tu veux que je continue. Alors, du côté de l'offre, donc je disais tout à l'heure, on a une assez importante, un important dispositif d'équipement dans notre pays, dont on peut être légitimement fier. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on est confronté à un paradoxe. Et le paradoxe est le suivant. C'est-à-dire qu'il y a énormément de productions nouvelles dans le domaine de la musique, du théâtre, de la danse. Bon. Or, ces productions nouvelles sont finalement, dans pas mal de cas, assez peu diffusées. Finalement, on va créer une nouvelle pièce, on va créer une nouvelle représentation chorégraphique ou lyrique, mais qui sera présentée à peu de reprises. Donc moi, ce qui me frappe en tant qu'observateur, c'est que j'ai l'impression qu'on a des équipements qui sont performants. On a des théâtres, des salles de concert en ordre de marche du 1er janvier au 31 décembre, mais qui finalement diffusent assez peu. C'est-à-dire que dans une ville, je dirais une ville moyenne, le nombre de concerts ou de pièces de théâtre ou de représentations chorégraphiques auxquelles vous pouvez assister n'est pas si important que ça. Alors moi, je viens de Tours, par exemple, donc je suis très content de la qualité des équipements, mais j'ai assez peu d'occasion de lever de rideau, finalement, à me mettre sous la dent. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a une sorte de contre-modèle, hein, qu'il ne s'agit pas nécessairement d'adopter, mais qu'on peut avoir en tête pour suggérer que potentiellement on peut faire autrement, c'est ce qu'on pourrait appeler le modèle germanique. Hein. Donc, c'est-à-dire que dans les villes moyennes allemandes, vous avez une troupe de théâtre, une troupe de danse, une troupe d'opéra, et puis quasiment tous les soirs, vous avez un spectacle. Alors, il me semble que si on veut progresser dans un meilleur accès de nos concitoyens à la culture, le fait d'avoir une offre plus consistante pourrait permettre de créer un public dans la durée. Alors, si vous me dites, mais bon, ce modèle-là, c'est facile, on l'aurait déjà inventé, ou pourquoi on ne le fait pas ? Ben, il se trouve qu'un artiste lyrique, Thomas Dollier, a fait dans Le Monde, il n'y a pas longtemps, une tribune pour expliquer qu'au moment où les directeurs de maisons d'opéra ou les directrices se plaignaient, et à juste titre, bien entendu, d'une diminution de leurs moyens et d'une très grande préoccupation, hein, je rappelle qu'à Tours, par exemple, on a eu une grève, il y a un spectacle qui n'a pas eu lieu parce que les musiciens ont refusé en raison de la difficulté de la situation. Donc, je ferme la parenthèse, Thomas Dollier dit « Au-delà de l'aspect financier, il y a à repenser le modèle. C'est-à-dire qu'avec le même argent, on pourrait probablement produire davantage, faire en sorte qu'il y ait davantage de levée de rideau. Alors, juste pour faire image, on connaît tous la comédie française, par exemple. On connaît tous la capacité des comédiens français à passer d'une pièce à une autre et à produire en permanence un grand nombre de spectacles. Voilà, tout ça pour dire que, bien sûr, que les acteurs culturels s'interrogent en disant est-ce qu'il y a assez d'argent et est-ce qu'il y aura assez d'argent à l'avenir, etc. C'est une légitime préoccupation, mais ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir à d'éventuelles nouvelles façons de faire davantage de choses, finalement, avec les mêmes moyens financiers. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas plus d'argent pour la culture. Mais je dis déjà, avec l'argent que nous avons, est-ce qu'on est capable d'apporter encore davantage à nos concitoyens. Voilà, alors, oui, pardon.
Juste, oui. Je me souviens comme ça, en t'écoutant, que d'une intervention de Jean-Michel, mais Jean-Michel Le Boulanger, sur, je trouve qu'il y a quelque chose, peut-être que tu vas le traiter, c'est aussi Paris et les régions, quand même. Ah, oui. Et que lorsqu'il était vice-président de la région et vice-président en charge de la culture, il s'était rendu compte, parce qu'on se dit, ouais, il y a plus d'offres à Paris, mais ils sont plus nombreux. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas grand-chose d'offres en Centre-Bretagne, par exemple. Mais en fait, quand on regarde les chiffres purement arithmétiquement, je ne me souviens plus du montant exact, mais il s'était rendu compte que pour un Parisien, il y avait par exemple 3 euros de dépensés pour la culture. Et en Bretagne, il y a 1 euro. Donc ils étaient allés au ministère de la Culture, expliquer, et on leur avait dit, pas la ministre, vous n'avez pas été reçu par la ministre, en disant, vous ne voulez quand même pas qu'on prive les Parisiens pour vous, et ils sont partis sans rien. Voilà. Donc, vous voyez, c'est en valeur absolue aussi. Il y a quand même plus d'argent pour certains territoires et beaucoup moins d'argent pour d'autres territoires. Donc, l'offre ne peut pas non plus être la même.
Oui, alors effectivement, tu as raison d'aller sur ce terrain-là. Juste un tout petit mot, si on prend un peu de recul, parce qu'on a parlé ce matin de l'épisode de la Covid, qui a duré quand même assez longtemps, il y avait le sentiment chez beaucoup que après, elle ne serait pas comme avant. On allait aller vers un monde nouveau parce qu'on s'était tous arrêtés, on était obligé de réfléchir, on n'avait rien d'autre à faire. Et donc, on s'est dit, on ne va pas recommencer.
On a tous pensé ça.
Voilà. Et en fait, tout est revenu exactement comme avant. Voilà. Ah non, vous n'êtes pas d'accord. En pire, c'est encore pire que ce que je venais de dire. Non, bien sûr qu'il y a des changements, il y a toujours des changements, mais on va dire que c'est pas non plus que voilà. Bon. Et donc c'est une certaine façon. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une sorte d'occasion manquée, parce que finalement on avait tous l'occasion de se poser, de réfléchir, est-ce qu'on veut faire différemment, comment, etc. Eh ben, on n'a pas saisi cette occasion. Donc par exemple dans le domaine que je connais bien, que celui des musées. C'est le retour aux très grandes expositions, en tout cas dans les grandes grosses machines. Et finalement, oui, il y a des remises en question, mais elles se font sous l'empire du réchauffement climatique et des préoccupations écologiques, qui sont tout à fait légitimes, bien entendu, mais qui, à mon avis, ne sont pas forcément spécifiques au champ de la culture. Et comme je disais tout à l'heure, le fait de repenser les modèles, je ne l'ai pas fait en lien particulier avec la crise climatique. Donc la crise climatique existe, elle doit être traitée, mais disons que les enjeux de la culture sont en large partie des enjeux qui lui sont spécifiques. De la même façon que dans le domaine de la santé, on peut imaginer qu'il y a des enjeux liés à la santé qui ne sont pas liés directement à l'enjeu climatique. Alors, le pari. Donc moi, je fais une proposition un peu, pour laquelle j'incite les élus à être, un peu plus revendicatif. Les musées en province, ça ne vous choque pas si je dis ça, non? Non, je peux dire ça. Non, mais il y a des musées magnifiques. Je connais bien le territoire français, je connais bien ces musées, il y a des choses extraordinaires. Mais ce qui me frappe, c'est que quand vous voulez voir des expositions de calibre, on va dire, européen, Paris, ok. Lyon, Montpellier, et après vous avez fait assez vite le tour. Or, on a quand même dans notre pays une dizaine de métropoles. Donc moi, je me dis que le minimum, ça serait que ces musées de villes significativement importantes, on va dire, aient les moyens de mettre en place des événements importants. Alors, je ne suis pas dans l'idée de faire obligatoirement quelque chose de médiatique. Ce n'est pas ça la question. C'est d'avoir un événement important pour les habitants et de construire autour de ça une programmation artistique, culturelle, pédagogique, tout ce que vous voulez. Et donc, là, il y a bien un enjeu financier, c'est-à-dire un ticket d'entrée pour les grandes expositions qui est très élevé, mais qui pourrait être en partie résolu s'il y avait une plus grande solidarité, je ne dis pas à le dire, entre les établissements nationaux, qui le plus souvent sont des établissements parisiens, et leurs homologues en région. Donc ça, c'est une première proposition. La deuxième proposition, c'est de dire que, sans tomber dans le mythe selon lequel les réserves des musées sont remplies de chefs-d'œuvre, ce qui n'est pas vrai, à quelques exceptions près, pour autant, on peut quand même penser que des dépôts, ne serait-ce que temporaires, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on s'en fiche, permettraient de renforcer à échéance régulière l'attractivité de ces musées qui, encore une fois, moi j'aime beaucoup les musées, donc je ne dis pas du mal des musées, mais je suis forcé de constater qu'ils ne sont pas très remplis, la plupart du temps, je veux dire, en dehors, encore une fois, des grandes vedettes, qui peuvent être aussi en province, d'ailleurs, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais la plupart des autres sont assez peu, enfin, ils sont peu sujets à la surfréquentation, si je puis le dire, parce que, une fois que les gens connaissent la collection permanente, et puis s'il y a 2 expositions par an, il n'y a pas de raison particulière, je dirais, de revenir visiter le musée. Voilà. Donc, il y a un ensemble de choses. Je pense qu'il faut une meilleure distribution et il faut aussi, je reviens à la question du spectacle vivant, une plus grande solidarité, plus de mutualisation, plus de partenariat, plus de coopération et plus du tout, alors là, pour le coup, de clause d'exclusivité ou de clause de non-concurrence en disant si tel artiste vient chez moi, il n'est pas question qu'il vienne chez moi. Parce que là, on est dans le champ de l'intérêt général. Donc, ce raisonnement, il est impossible à tenir. Donc c'est ce qu'auront connu d'ailleurs récemment les syndicats professionnels dans le domaine du spectacle vivant. Donc voilà, donc je pense qu'avec, je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas plus d'argent pour la culture, mais je dis qu'avec l'argent dont nous disposons, il y a la possibilité peut-être de faire d'autres choix, ce qu'interrogeait Thomas Delier. Est-ce qu'on a besoin de faire venir des artistes avec des cachets exorbitants? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des mises en scène fastueuses? Dans l'idéal, oui, tout ce qui est mieux, mais si on a des choix à faire, peut-être qu'il faut avoir une approche un peu plus raisonnée, on va dire, et donner la priorité à l'accès du public à cette offre culturelle. Alors, il me semble que la difficulté qu'on a, et là je vais en terminer par rapport à ce projet ici de l'École des filles, c'est que on vit sous le paradigme qui est celui du ministère de la Culture, une sorte de triptyque, excellence, artiste, création. Ça, c'est un peu l'alpha et l'oméga du discours du ministère de la Culture qui est fréquemment adopté, on va dire, par les collectivités qui n'ont pas de raison particulière d'avoir un autre discours. Mais cette approche ne fonctionne pas bien pour des projets, notamment en milieu rural, dans lequel ces notions que je viens d'évoquer, d'excellence, de création, ça ne rentre pas toujours dans les cases. Et on a fait un rapport avec mon collègue dont je parlais tout à l'heure, Jean-Luc Poutz, sur un guide qui s'appelle un guide à l'usage des projets locaux, enfin des porteurs de projets locaux, je ne sais plus très bien. En tout cas, dans le milieu rural, qui présente de grandes spécificités, eh bien, dans ces cas-là, on ne peut pas appliquer les grilles habituelles utilisées par les ministères de la Culture ou par les équivalents ou ceux qui suivent un peu la même logique. On doit s'adapter aux réalités du terrain. Donc, dans le cas présent, ici, à l'École des filles, il faut mettre en évidence un ensemble de valeurs, je n'hésite pas à le dire, des valeurs sociale, citoyenne, de cohésion, de qualité de vie, d'éducation, etc., qui émanent du projet artistique initial. Et c'est sur ce fondement-là, qui est en lien, bien entendu, vous l'avez compris, avec le développement territorial, avec le développement local, que l'on peut construire, mettre en place un appui à ce type de projet, mais pas selon les grilles habituelles. Voilà, donc il faut aussi se dire que, certes, il y a là une sorte de rivalité Paris-Province, juste pour dire que Paris, c'est 2 millions d'habitants, mais la région parisienne, c'est 12 millions d'habitants. Bon, voilà. Mais donc, il ne faut pas nacher ça, mais pour autant, à l'intérieur, enfin, plutôt au-delà du débat province-capitale, il y a aussi le débat milieu urbain, milieu rural. Et dans le milieu rural, il y a des initiatives très intéressantes, comme celle-ci dont nous occupons aujourd'hui, qu'il faut soutenir du point de vue de l'intérêt public. C'est l'intérêt public qui commande de soutenir ce type d'initiative en tant qu'il est porteur des valeurs dont je parlais tout à l'heure, de valeurs sociales, de valeurs éducatives, de valeurs citoyennes. Donc si je reboucle, pourquoi on a besoin de financement public pour la culture? Ben justement, soit pour des formes de culture auxquelles on n'accède pas si facilement que ça, oui, pour lesquelles il faut un accompagnement, un cheminement, bon, un compagnonnage, et aussi pour des projets qui sont porteurs de valeurs, mais qui ne produisent pas en eux-mêmes, bien évidemment, les moyens de s'autofinancer. Hein. Personne n'imagine que l'école des filles, par ses propres ressources, puisse s'autofinancer. Et donc ça, ultimement, il me semble que c'est une justification suffisante pour l'action publique. Et là, je termine sur un point, je reviens aussi sur les bibliothèques. Il ne faut pas se tromper. Françoise disait hier, la culture a une valeur économique. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas exagérer, hein, si je peux me permettre, Françoise. Hein. Voilà. Non, tout à fait.
On prend jamais en compte les répercussions économiques. Vous avez une exposition dont vous parlez des blockbusters. Vous avez des milliers et des milliers de visiteurs. Forcément que ça déjeune, forcément que ça dîne, forcément que ça dort, forcément que ça s'habille, forcément que ceci, forcément que cela. Et après, dans les voies économiques, ah non, il n'y a jamais eu aucune répercussion. On n'a jamais rien fait. Enfin, oui, bien sûr. Et c'est jamais comptabilisé. Voilà. La culture, c'est comme quelque chose qui ne fait que coûter de l'argent. Non, ça ne fait pas que coûter de l'argent.
Non, tu as raison, Françoise, mais là où je voulais intervenir, c'est qu'il ne faut pas se tromper en tant qu'acteur culturel, il ne faut pas se tromper de combat. Vous ne convaincrez jamais les élus, on verra ce que dit Stéphane Le Foll, à ce sujet, que l'argent... je pense que Stéphane Le Foll, il préfère... Mais je parle à sa place, il va m'en vouloir, mais ce n'est pas grave. Hein, on est en bonne compagnie, donc tout va bien se passer. Je dis peut-être qu'il préfère l'installation d'une usine de composants microélectroniques, voilà, qui va créer beaucoup de richesses, d'emplois, de salaires, de bons salaires, etc., et des taxes, etc. Bon, parce que la culture, c'est comme j'ai passé mon temps à la défendre, donc je peux me permettre. Oui, c'est très important, mais croyez-moi, ou croyez les économies de la culture, si vous ne me croyez pas moi, ça coûte plus que ça rapporte. Voilà. Mais c'est pas un problème. Alors pourquoi j'en viens aux bibliothèques? Parce que dans n'importe quel pays dans le monde, en tout cas tous ceux que je connais, les bibliothèques sont prises en charge par la collectivité publique. Et même aux États-Unis, dont on parle, comme le pays le plus libéral, je sais pas quoi, les bibliothèques, comme ça rapporte rien, ça rapporte zéro, hein, zéro égale zéro, bon, voilà, pour autant, la collectivité voit bien que son intérêt bien compris, c'est d'avoir des citoyens informés, éduqués, ouverts, éveillés, etc. Et d'autant plus dans la société dans laquelle nous vivons, où nous voulons des individus qui soient créatifs, imaginatifs. Eh bien ça, c'est l'une des valeurs, en effet, que peut procurer la culture. Et donc les élus, comme nous, citoyens, parce que nous, c'est nous qui disons les élus, hein. D'accord, donc ultimement, c'est nous qui avons le dernier mot. Nous sommes d'accord pour payer des bibliothèques, alors même que nous savons que ça ne rapporte rien, y compris, pareil, pour la question des conservatoires de musique, de théâtre et de danse.